Alors, nous allons reprendre. Je vous propose, selon que vous préférez être assis ou debout, vous voyez comment vous êtes le mieux. Si nous allons faire un peu de travail de respiration. Si vous êtes assis, vous pouvez rester assis. Vous vous asseyez sur votre chaise, les pieds non croisés, à plat sur le sol. Selon que vous êtes grand ou petit, ça vous fait vous enfoncer plus ou moins dans le siège. Vous pouvez, comme fait Pierre devant, vous pouvez avoir les mains posées sur les cuisses. Voilà. Vous fermez les yeux si vous êtes mieux comme ça. Sinon, vous laissez les yeux ouverts, dans le vague. Et puis, je vous propose de respirer, de prendre conscience de votre respiration telle qu'elle est là en ce moment. Vous prenez conscience de l'inspiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Donc vous faites en sorte, vous gonflez, vous respirez jusqu'à ce que ça monte en haut. Souvent, la partie haute des poumons, plus d'ailleurs souvent chez les hommes, mais n'est pas nourri d'air. Donc, vous prenez conscience de l'inspiration dans tout votre corps, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, la poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc, d'abord, une expiration en lâchant les tensions. Voilà. Et après, vous pouvez aussi mettre les mains comme vous voulez, mais c'est pas un exercice de performance. Donc, je ne vais pas vous faire mettre les mains si vous connaissez sur le ventre, sur les côtes. Simplement prendre conscience en l'accompagnant de cette inspiration dans les poumons qui peut partir du ventre en gonflant le ventre. Les poumons à partir du bas jusqu'en haut, ça fait compter à peu près jusqu'à 5. Et après, un expire le plus long possible. Et vous faites ça 5 fois de suite. Et quand vous le faites bien, vous sentez les tensions qui lâchent et le ventre qui se rentre complètement, la poitrine qui va se vider. Et si vous avez bien expiré, à ce moment-là, l'air s'engouffre dans les poumons avec l'inspire. Voilà, je me tais et chacun le fait 5 fois. pouvez accompagner le mouvement à l'inspire de par les mots ou quelque chose de ce genre. J'accueille et à l'expire, je me donne. Nos frères orthodoxes accompagnent souvent du nom de Jésus ce travail d'inspiration et d'expiration qui fait tomber les tensions qui nous remplissent. Je vous propose de le continuer encore une à deux minutes et quand vous êtes prêts, on va faire un travail du cou et des épaules. Bâillez si vous bâillez, c'est super. Vous pouvez même provoquer les bâillements, ça apporte une grande détente. Et après, chacun à sa place s'étire, comme je vois certains faire. Vous pouvez étirer les épaules. Si vous bougez le cou, vous le faites extrêmement en douceur, jamais de mouvement brusque. Même ceux qui ont des problèmes de cou peuvent, la plupart d'entre eux, légèrement bouger le cou, mais jamais rien de brutal. Je suis sûre que Jésus respirait très bien, lui qui était le vivant, qui est le vivant. Alors maintenant, un exposé sur Jésus et la souffrance, avec trois parties. La première en quelques lignes, pour fonder ma parole sur une foi. La deuxième, Jésus et ceux qui souffrent, qui va être relativement courte aussi. Et je voudrais surtout vous parler de la troisième, Jésus et sa propre souffrance et sa mort. Quel est le cœur de la foi chrétienne ? Le cœur de la foi chrétienne, au cœur de la foi chrétienne, c'est d'abord le Dieu fait homme. Pour ressusciter, il faut qu'il soit homme, d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies que Dieu se soit fait homme ? Nous lisons bien dans l'Écriture, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous lisons aussi, il a tout partagé de la vie humaine, sauf le péché. Est-ce que nous prenons ça au sérieux ou est-ce que finalement nous ne sommes pas, comme depuis les débuts de l'Église, avec quelques hérésies personnelles ? Oui, mais lui, Jésus, il savait. S'il a tout partagé de la vie humaine, il a eu à en partager les tentations. Vous l'avez vu au désert, les souffrances, les joies et la mort. Il n'est pas devenu vieux, mais on ne peut pas tout, mais aucun de nous ne peut tout. Donc Jésus, comme chacun de nous, a pris la condition humaine dans un lieu déterminé, une époque déterminée, un cadre déterminé avec des limites précises. Si Dieu s'est fait homme et a tout partagé de la condition humaine, qu'est-ce que ça dit pour nos vies? Ça dit plusieurs choses. Ça dit son amour, mais ça dit que, comme dit Jésus, il est vraiment le chemin. Parce que un Dieu qui s'est fait homme, il n'y a que la foi chrétienne qui dit ça. Il nous montre donc ce que peut être la vie de l'homme, ce qu'est la vocation de l'homme, jusqu'où l'homme peut aller. Il nous montre qui est Dieu. Et les deux ne sont pas séparables. À travers sa vie d'homme, il nous montre qui est Dieu et qui est l'homme. Et ça, nous pouvons sans arrêt le méditer. J'ai été 15 ans dans l'hindouisme avec un vrai maître et j'avais une seule question qu'on me disait intellectuel qui ne l'était pas. C'était « Je voudrais que Dieu se révèle à moi et qu'il me dise avec des mots d'homme qui est l'homme et qui est Dieu. » Jusqu'au jour où il est venu me le dire. Si nous croyons vraiment que Dieu s'est fait homme, nous cesserons d'avoir un tiroir pour la foi et un tiroir pour l'humain. Ah mais ça c'est l'humain et ça c'est la foi. C'est-à-dire que toute notre vie sera évangélisée. Vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous les bouquins de Simone Pacaud, « Évangéliser nos profondeurs ». Eh bien, évangéliser nos peurs, car Jésus a eu peur, évangéliser nos amitiés, évangéliser nos amours, tout évangéliser. Il est venu vraiment nous montrer ce que c'est qu'être homme. Et ça veut dire que quand nous ne savons pas que faire, oui, il y a des frères humains qui sont là, mais il y a aussi ce Dieu que nous pouvons contempler dans sa vie d'homme, en nous souvenant qu'il est Dieu et homme. Et donc, il nous montre le chemin. Et ça ne veut pas dire répéter exactement ce qu'il a fait. Il a eu une vie unique et il a fait de chacun de nous un être unique. Mais c'est vivre avec le même esprit que lui. Et c'est ça que nous allons essayer de méditer un petit peu en parlant de son rapport à la maladie et à la mort et surtout à sa propre mort. Alors, je vais dire des choses que vous savez, mais ce n'est pas grave, on a besoin de se les dire les uns aux autres. Vous vous souvenez comment Jésus inaugure sa mission? C'est en Luc chapitre... C'est marrant, j'ai marqué 16-20, mais vous pourriez vérifier, je suis un peu étonnée. Pour moi, ce serait plutôt 4. Mais vous irez vérifier. En tout cas, voilà ce que dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vie, rendre aux opprimés la liberté, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il ajoute, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Donc toute la vie de Jésus, voilà, est là-dedans. Et si nous donnons un rapide panorama plus intérieur qu'extérieur, nous nous souvenons qu'il n'a cessé de guérir des malades du cœur, je voulais dire du corps, mais je dis aussi du cœur profond, je ne parle pas du cœur, les maladies de cœur, du cœur profond. Toutes les façons de voir le monde et de proposer la guérison, comme il a fait à certains qui ont dit non. Jésus ose exprimer des sentiments, il n'a pas peur de pleurer, il n'a pas peur de faire la fête et d'aller à un mariage, de faire un miracle. S'il manquait de vin, c'est qu'ils avaient quand même bien bu, ces gens-là, pour avoir, ou alors les... En Orient, vous savez, on est généreux, donc on avait fait généreusement. Et il a, sans aucun jugement, il a fait un miracle de encore du vin. Il a participé à des fêtes, donc il était bien vivant. D'ailleurs, on le traitait de glouton. Il faut quand même s'en souvenir de ça. Donc, tout un rapport aux religieux qui n'est pas forcément celui qu'on nous a enseigné. Mais là, c'est l'évangile que je vous dis. C'est pas forcément ce qu'on m'a appris au catéchisme, mais c'est l'évangile. Donc, Jésus était quelqu'un de vivant. Jésus était quelqu'un qui souffrait quand il voyait les autres souffrir. Et Jésus avait des amis. Et Jésus pouvait pleurer. Il eut pitié de cette foule. Quand Lazare est mort, il était complètement bouleversé. Il y a une homélie du pape ces jours-ci qui commente de façon très belle cette guérison de Lazare. Vous remarquerez que il fait appel aux forces des gens, c'est-à-dire qu'il fait un miracle, mais souvent il demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il attend que les gens fassent une démarche. Il ne s'impose jamais, il n'est pas envahissant, il est respectueux. Et finalement, ce qui ressort, c'était Francis Degnaud, l'ancien évêque de Nevers, qui disait ça, que sans nous, il ne peut rien faire. Va, ta foi t'a sauvé. Il ne dit jamais « je t'ai sauvé ». C'est nous qui disons « il nous a sauvés », et c'est vrai. Mais il dit « ta foi t'a sauvé ». De même qu'on dit, en certains lieux, il ne pouvait pas faire de miracle parce que les gens n'avaient pas la foi. Quelle confiance, nous parlions de la confiance, quelle confiance Dieu nous fait. Je suis un peu paumée dans mes notes. Je vais vous lire ce que dit le pape sur... C'était le 2 avril, c'est pas loin. Donc, à propos de Lazare, là tout semble fini. La tombe est fermée par une grande pierre. Autour seulement pleurs et désolation. Jésus aussi est secoué par le mystère dramatique de la perte d'une personne chère. Il fut profondément ému et il fut très troublé. Puis il éclata en larmes et il se rendit au tombeau, dit l'Évangile. Une nouvelle fois profondément bouleversé. Ce sont les versets de l'Évangile que cite le pape. Voilà le cœur de Dieu. Loin du mal, mais proche de qui souffre. Il ne fait pas disparaître le mal de façon magique, mais il compatit la souffrance. Compatit, ça a été écrit en deux mots, je pense volontairement. Il souffre avec. Il la fait sienne, il la transforme en l'habitant. Mais notons qu'au milieu de la désolation générale du fait de la mort de Lazare, Jésus ne se laisse pas emporter par le découragement. Tout en souffrant lui-même, il demande que l'on croie fermement. « Crois-tu ?» dit-il à Marie ou Marthe, je ne sais plus. Marthe. Il ne se laisse pas capturer par l'ambiance émotive résigné qui l'entoure. Mais il prie avec confiance et il dit « Père, je te rends grâce ». Ainsi, dans le mystère de la souffrance, face auquel la pensée et le progrès se brisent comme des mouches sur la vitre, Jésus nous offre l'exemple de comment nous comporter. Il ne fuit pas la souffrance qui appartient à cette vie, mais il ne se laisse pas emprisonner par le pessimisme. Autour de ce tombeau advient ainsi une grande rencontre, affrontement. D'une part, la grande déception, la précarité de notre vie mortelle, qui, traversée par l'angoisse de la mort, fait souvent l'expérience de la défaite, d'une obscurité qui paraît insurmontable. Et notre âme, créée pour la vie, souffre en sentant que sa soif d'un bien éternel est oppressée par un mal antique et obscur. D'une part, il y a cette défaite du tombeau, dans la vie de Jésus aussi. Mais de l'autre côté, il y a l'espérance qui vainc la mort et le mal et qui a un nom, l'espérance s'appelle Jésus. Il n'apporte pas un peu de bien-être ou quelques remèdes pour allonger la vie, mais il proclame « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est pourquoi il dit avec décision « Enlevez la pierre » et à Lazare, il crie avec une grande force « Viens dehors. » Et les gens se demandaient entre eux d'où vient son autorité. Aucun homme n'a jamais parlé comme celui-ci. D'où vient son autorité? Il le dit maintes fois. Nous pouvons le prendre comme des mots savants. Prenons-le de façon très simple. Le Père et moi, nous faisons un. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie d'un homme? Car nous nous le disons peut-être au point de vue divin, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Père et moi, nous faisons un seul Dieu en trois personnes. D'un point de vue humain, ça veut dire, et c'est ce que nous voyons sans cesse dans la vie de Jésus, il se tourne sans arrêt vers Dieu avec confiance. Je sais bien que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce. Le Père m'a tout remis entre les mains. C'est-à-dire que, à la différence d'Adam et Ève, il croit vraiment que Dieu donne tout. Et Dieu donne jusqu'au pouvoir de relever nos frères. D'ailleurs, on l'a vu dans les premiers siècles de l'Église, le nombre de miracles qu'il y a pu avoir avec la foi. Des gens qui n'avaient plus à manger, des saints, ils priaient et il y avait à manger. Ça peut paraître étonnant, mais voilà, Jésus est un homme qui a une foi absolument profonde et qui a remis tout son être à celui qu'il appelle son Père, à son Dieu. Voilà l'homme Jésus, qui est aussi, et ça éclaire le mystère de la Trinité, qui est aussi celui qui reçoit tout du Père. Il se reçoit du Père. Voilà, n'essayons pas de comprendre avec notre tête. Simplement, laissons-nous prendre. Ce que nous voyons chez l'homme Jésus, c'est ce qui se passe en Dieu aussi. Il nous dit quelque chose de ce qui se passe en Dieu. Mais restons-en à l'humain, là, à l'incarnation. Voilà, Jésus est un homme avec une foi immense et Jésus est un homme avec un cœur immensément ouvert à tout ce qui est autour de lui. Ça n'empêche pas qu'il puisse remettre les gens à leur place et se mettre en colère. Il n'est pas, on ne dirait pas de Jésus que c'est quelqu'un de gentil. Ça ne viendrait pas à l'esprit de dire que Jésus est gentil. Jésus est humble, Jésus est bon, Jésus est amour, Jésus est foi, plein de confiance, et plein de confiance envers l'homme aussi, puisqu'il demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, qu'est-ce que cela nous dit ? Vous le méditerez chez vous, ou comme ça vient maintenant. Maintenant, je suis en retard de 20 minutes sur mon programme. On va voir à la grâce de Dieu. Comment Jésus vit sa propre souffrance et sa mort ? Si nous continuons à regarder l'humanité du Christ, on peut voir qu'il a vraiment souffert, vraiment souffert. Ses amis ne comprenaient rien de lui, absolument rien. « Tu me mettras à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ton royaume. » Plein de choses comme ça. Là, quand il annonce sa mort, « Ah, mais qu'à Dieu ne plaise, moi je te défendrai. » Et après, à Gethsémani, il se carapate. À Gethsémani, il est avec ses meilleurs amis, pourtant. Alors, je voudrais commenter Gethsémani à partir de Marc, chapitre 14, versets 32-48. Jésus va prier avant l'épreuve qu'il sent imminente. Et nous avons l'impression que plus il prie, plus son angoisse grandit. Étonnant. Et nous disons quelquefois entre nous, prie, tu verras, ça ira mieux. Lui, plus il prie, plus son angoisse grandit. Il va jusqu'à suer des larmes de sang. Il est dans la nuit intérieure et le désarroi, au point de désirer une intervention magique de Dieu qu'il sait impossible, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, alors qu'il sait très bien qu'il n'y a pas le choix. Comme nous, tout comme nous, quand on est devant l'épreuve, mais mon Dieu, délivre-moi, fais ça. Il a vécu ça, lui aussi. N'ayons pas peur de le dire. Il a besoin, comme nous, de l'aide de ses proches et des plus proches, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui ont été témoins de la transfiguration. C'est pas rien. Par trois fois, il revient les voir, les trois fois en vain. Ils ne sont apparemment d'aucun secours. Faisons la transposition avec le monde de la maladie, de la mort, de l'épreuve. Pourtant, il persévère. Il est dans la totale déréliction, comme s'il savait plus, il n'en pouvait plus. Il n'en peut plus. Il est comme ces gens, vous savez, qui n'en peuvent plus, qui vont, qui viennent, qui ne savent plus. Et il confie à ses disciples, « Mon âme est triste à en mourir. » Alors on peut dire que dans cette tristesse, de triste à en mourir, il y a plusieurs aspects, mais qui ne font qu'un et qui ne font que renforcer la tristesse. En fait, fin de vie, bilan de sa vie, ce qui comptait le plus pour lui, établir le royaume de Dieu semble l'échec total, tellement l'échec qu'on va le mettre en croix. Alors que tous, nous humains, nous avons besoin, nous avons le désir que ce qui est le plus fort pour nous soit transmis. Nous avons le désir que le plus fort de notre vie réussisse, surtout quand c'est la quête de Dieu. Non, il est complètement rejeté, complètement seul, et complètement seul pour affronter la mort. Et même son Dieu semble absent. Et c'est au milieu de tout ça qu'il a les mots « Abba », ce qui veut dire « petit papa chéri » en araméen. Abba, Abba. C'est la seule fois où on trouve ce mot dans toute la Bible. Et Abba, après avoir dit « petit papa chéri » et tout ce qu'il a dit avant, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire une folle confiance en Dieu. Et là, j'ai envie d'ajouter, à propos de cette confiance, et tout à l'heure on parlait de cet échange de confiance entre celui qui accompagne et celui qui va mourir. Là aussi, on le trouve. C'est faux, comme a dit un théologien protestant qui s'appelle Moltmann et qui est très connu, que le père a abandonné le fils. C'est faux. Et Martelet, qui est connu dans le monde entier, m'a dit que j'avais raison. C'est faux parce que le père n'a pas abandonné le fils. Le père a eu tellement confiance en son fils qu'il l'a laissé aller à la mort. Nous, humains, nous sommes capables, quand nous avons confiance en quelqu'un, de le laisser risquer sa vie. Dieu a fait ça avec Jésus, son propre fils. Il n'a pas fait d'intervention magique, il l'a laissé aller à la mort. Échec total. Ça, c'est au cœur de l'humanité du Christ et c'est au cœur du christianisme. Et c'est de là que va venir toute notre gloire. Jésus ne fait jamais rien par lui-même. À la croix encore, il va dire, il remet tout au Père jusqu'au pardon. Il ne dit pas « je leur pardonne », il dit « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». J'ai dit ça un jour à une femme dont le mari avait commis l'inceste et elle me disait « je ne peux pas lui pardonner », c'était une semaine avant Pâques. Et je lui ai dit « est-ce que vous pouvez confier ça à Dieu et dire et lui dire « Père, pardonne-lui ». À ça, oui, je peux. Voilà. Donc nous, nous pouvons. Jésus n'a pas fait le fierau, je pardonne. Il a tout remis à son Père. Et Dieu sait si pourtant, il avait pardonné. Jésus vit le mal autant que la souffrance, non point dans un acte de puissance, mais de confiance. C'est pourquoi il meurt en disant « Tout est accompli, tout est à sa place. » Tout est à sa place alors que, justement, ça paraît la fin du monde. Tout est à sa place. Je leur ai manifesté ton nom. Je leur ai manifesté ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pendant la Semaine Sainte, on va revenir sur tout ça avec le prophète Isaïe notamment. Je leur ai manifesté ton nom. Ça veut dire un amour divin qui va jusqu'à l'humilité, jusqu'à s'effacer. Et pourquoi s'effacer? Nous pouvons avoir des mini-réponses dans nos comportements les plus humains. Nous nous effaçons quand nous faisons confiance à l'autre, quand nous nous disons, même s'il se casse la figure, je crois en lui. Et c'est ce « je crois en lui » qui va faire que l'autre va peut-être un jour vivre. Effacement de Dieu, effacement jusqu'à la mort. Voilà, qu'est-ce que cet effacement, cette parole du Christ, je leur ai manifesté ton Dieu, nous dit de Dieu. Et c'est important le Dieu auquel nous croyons. Alors je reviens, il y a une personne qui est avec moi, qui, si elle vient, c'est super. Je vais reprendre encore la même chose, mais avec des interpellations pour nos propres vies. Comment on va faire pour avoir... Merci. Il marche ?
J'en sais rien.
Ben, essayez.
Est-ce qu'il marche ?
Oui, super. Je voudrais faire un rapprochement je l'ai déjà commencé, mais y revenir un peu plus profondément encore, entre ce que vit Jésus et le vécu des personnes malades proches de la mort. Je trouve que c'est quelque chose de très important qu'on ne fait pas assez, parce qu'on surfe trop vite dans l'extra-spirituel alors que nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme. Donc nous reprenons ça toutes les deux. Dans ce que vit Jésus, nous voyons un vécu intense qui est celui de bien des malades proches de la mort. Jésus sent l'épreuve imminente. Beaucoup de malades sentent venir la mort. Il sent angoisse et frayeur au moment même où il se centre dans ce qu'il a de plus profond, la relation à Dieu son Père.
La relation à Dieu ne supprime pas l'angoisse ni le besoin de ne pas être laissé seul. Pourtant, il nous arrive de nous en étonner quand nous la voyons chez les chrétiens. Il nous arrive aussi de dire que tel ou tel serait moins angoissé s'il avait la foi.
Jésus a besoin de la présence des siens, d'une présence vigilante. Veillez, priez. Il ne cherche pas des paroles, mais une vraie présence, la seule chose importante, la présence. Il cherche aussi une présence qui le respecte dans ce qu'il a à vivre. Il s'éloigne un peu pour prier.
Et nous, comment entendons-nous la demande des malades? Savons-nous être présents en silence? Savons-nous simplement veiller sans les envahir?
Jésus était triste à en mourir. Pourtant, il reste encore capable de parler, de demander de l'aide.
Et nous, lorsque nous voyons quelqu'un submergé de tristesse, ou que nous sommes submergés par la tristesse, croyons-nous qu'il y a encore la place pour autre chose?
Les plus proches ne comprennent pas que Jésus les a choisis comme témoins de ce qu'il a à vivre. Ils n'entendent pas, ne voient pas, ne croient pas qu'il a besoin d'eux. Ils se réfugient dans le sommeil. Ainsi, cela leur évite d'être bouleversés et de se sentir démunis. Ainsi, ils n'ont pas à affronter la peur, la déception, l'écroulement de leurs rêves. Ils sont incapables d'accompagner celui pour lequel ils ont tout quitté.
Et nous, ne nous dérobons-nous pas davantage avec ceux qui nous sont proches? Ne sommes-nous pas davantage troublés par ceux qui nous sont proches ou par ceux dont nous avons une image élevée? Comment faisons-nous pour ne pas voir, ne pas entendre, ne pas sentir?
Se sentant coupables, ils ne savent que répondre aux reproches de Jésus et continuent à ne pas répondre à sa demande.
Et nous, que faisons-nous quand les malades nous reprochent de ne pas leur être présents? Le sentiment de culpabilité n'est-il pas dans nos vies une sorte d'excuse pour ne rien faire? Peut-être aussi, trouvons-nous que l'autre en demande trop avant même d'avoir écouté ce qu'il demande. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de l'accompagnement.
Excusez-moi, c'est peut-être une phrase en trop que j'ai mise là par hasard. Malgré les apparences, malgré la persévérance de sa demande, malgré la clarté de sa demande, Jésus est seul d'un bout à l'autre de son épreuve. Certains malades sont dans une demande sans limite. Ils nous envahissent de leur vie, ils se croient tout permis parce qu'ils sont malades, et ils voudraient que nous les portions. Jésus, lui, demande juste une vraie présence. Une présence qui le reconnaisse dans ce qu'il a à vivre. Il n'obtient qu'une présence absente.
Et nous, comment sommes-nous avec ceux que nous accompagnons? Avons-nous conscience de leur solitude, quand ceux qui comptent le plus pour eux n'entendent rien de ce qu'ils vivent, faisant comme si rien ne se passait?
Quand l'épreuve avance, la prière de Jésus se met à attendre de Dieu le miracle impossible avant de dire sa confiance et son acceptation.
Et nous, voyons-nous qu'il y a des étapes dans la prière, c'est-à-dire dans la relation à Dieu? La confiance est un chemin et non pas une évidence. Elle est un choix qui peut se faire dans la nuit, dans la lutte. La mort de Jésus sur la croix nous le montrera encore. Tout est accompli, je remets mon âme entre tes mains, est inséparable de « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Je ne sais pas comment vous vous sentez après cette lecture un peu rapide qui voudrait d'être méditée, que vous pourrez méditer. J'envoie aussi mes textes par Roselyne et Pierre, pour ceux qui les désireraient. Mais ce qu'elle nous dit de Jésus, je parlais de cette confiance jusque dans la mort, elle nous dit que il y a la perte de tous les repères affectifs et de tous les repères de foi. Tout. Quand quelqu'un va mal, si nous ne passons pas par la perte de nos repères, nous sommes encore pleins de nous. Et si nous sommes pleins de nous, eh bien, nous ne pouvons pas être pleins de Dieu. Je m'explique, c'est pas que Dieu ne veuille pas notre vie, c'est, comme le disait saint Augustin, « Je te donnerai à toi-même lorsque je t'aurai donné à moi. » Nous, c'est avec notre petit égo que nous voulons, alors que lui veut tout nous donner. Et jamais il ne peut y avoir de résurrection sans passage par la mort. La résurrection n'est pas un acte magique dans lequel Dieu montre qu'il est le Dieu tout-puissant. Quand dans le credo nous disons Dieu tout-puissant, il n'a pour puissance que l'amour. Il n'a pas d'autre puissance et nous savons que l'amour, il est ce qu'il y a de plus démunis. Si Jésus est ressuscité, c'est parce que sa vie n'a cessé jusque dans la mort de faire un avec celle du Père et de l'Esprit, et je termine ce que je veux dire de la Trinité, car il était tourné en entier vers le Père parce que tout son être était habité par l'Esprit Saint. Ce n'était pas à la force des poignets, Jésus était habité dans tout son être par l'Esprit Saint. Et habité par l'Esprit Saint, alors il était en entier donné au Père. Et s'il a été ressuscité des morts, c'est uniquement parce qu'il n'a jamais été séparé de Dieu. Et nous pouvons entrevoir par là que c'est le chemin qu'il nous propose. Et nous pouvons trouver ce chemin énorme, et je le trouve énorme. Et j'ai tendance à me dire, bof, c'est quand même parce que lui, c'est Jésus, ou c'est fait pour les grands saints. Mais il y a ce travail intérieur à faire, avec la foi qui est un combat, c'est l'appeler pour qu'il demeure en nous, et que nous puissions, nous, vivre notre accomplissement d'être humain. C'est le chemin qu'il nous propose. C'est un chemin qui est assez enthousiasmant. Récemment, en me confessant, j'ai dit au prêtre, tu comprends, je le connais, on le tutoie, j'ai peur que Dieu me bouffe. Alors il m'a répondu, ben, Si j'en reste sur le même, avec le même registre, tu viens de le bouffer puisque tu as communié tout à l'heure. Et puis, après tout, ce serait quand même pas mal si Dieu te bouffait. Je suis repartie de là avec une joie hilarante. Oui, question. J'ai cru que c'était une question. Bon. Ça ne sert à rien que tout le monde bouge. S'il y a besoin d'un médecin, si quel... alors donc, on a confiance en eux et nous continuons. Comment Jésus a-t-il vaincu la mort? Par sa confiance en Dieu, en vivant de Dieu, et il a vaincu la mort finalement en acceptant la mort et les forces de haine. Il a traversé la mort, il n'a pas éliminé la mort. Alors bien sûr que la mort reste un mystère. Moi, la seule chose que je peux dire, il y a deux choses que je dis. Quand j'ai donné la vie à mes enfants, puisque j'ai la chance d'être mère, je savais que tout ne serait pas simple. Et néanmoins, j'avais une confiance folle que ça valait le coup. Alors je me dis, si moi, être humain, j'ai fait cette folie, à plus forte raison, Dieu est complètement fou en croyant que nous sommes capables d'une vie en plénitude. Surtout que cette vie en plénitude, c'est nous donner sa vie, nous donner de partager sa vie. Alors que mon amour, si grand soit-il, il est avec beaucoup de limites. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, elle me vient de... Ah, son nom m'échappe régulièrement. Celui qui a écrit Oscar et la Dame Rose, Eric Emmanuel Schmitt, qui dit, c'est quand même une grosse tête, il dit, je m'allonge dans le mystère. J'aime beaucoup, cette parole me porte depuis des années, je m'allonge dans le mystère. Ça ne veut pas dire, je renonce à savoir. Je m'allonge dans le mystère, ça veut dire je consens à être porté là où ça me dépasse et où ça me fait vivre. Le mystère, ça se dévoile, comme la beauté se dévoile à nous. Voilà, le mystère de notre propre être qui est aussi plein que le mystère de l'être de Dieu. Et je ne blasphème pas en disant ça, car nous sommes sortis de Dieu. Donc quand je parle de notre mystère, je parle du mystère de Dieu. Voilà, donc je suis étonnée de finir à l'heure. Écoutez, je crois qu'on est tous un peu, quand je regarde vos visages, c'est beaucoup de choses quand même. Vous imaginez les contemplatifs? Donc, d'après le programme, on dit... Ah, c'est que je suis en retard d'un quart d'heure, je croyais que j'étais à l'heure, pardonnez-moi. Le programme dit 15h45, pause en silence. Étant donné que tout à l'heure, il n'y avait que 5 minutes de pause et on a passé un bon quart d'heure, je propose que là, on inverse et que vous preniez juste 5 minutes pour boire, faire pipi, et qu'on se retrouve très vite ici pour faire une relecture ensemble de la journée et conclure.
Est-ce que vous souhaitez dire que vous avez un peu de temps après, si quelqu'un veut vous rencontrer?
Oui, je suis d'accord.
Vous pouvez le dire maintenant?
J'aurai tout le train pour dormir.